Raccroche, ça commence.
Mimi, c'est ta mère. Elle veut savoir c'est quelle fréquence.
Le contraire de l'indifférence, ce n'est peut-être pas l'émotion. On peut être ému très vite, très fort et passer à autre chose presque aussitôt. Le contraire de l'indifférence, c'est peut-être plutôt l'attention. Cette décision un peu exigeante de ne pas laisser ce qui arrive aux autres devenir, à force de répétition, un simple fond sonore de nos vies. Et c'est peut-être là qu'un théâtre a quelque chose à faire. Parce qu'un théâtre, au fond, n'est pas seulement un endroit où l'on montre, c'est un endroit où l'on apprend à rendre présent. Un corps au milieu d'un plateau, une voix dans une salle, et soudain ce qui n'était qu'un récit, une idée, une lointaine nouvelle prend une place devant nous. Cela nous regarde au sens propre. Depuis le début de la guerre à Gaza, Jean-Luc Bansard a fait du théâtre du tiroir à Laval l'un de ces lieux où l'on refuse que la Palestine devienne une abstraction de plus, noyée dans le flux des images et des chiffres. Conférence après conférence, il y invite des voix, des témoins, des regards pour maintenir ouverte une question où l'époque préfère une réponse brève. Mercredi 13 mai à 20h, le Théâtre du Tiroir accueillera sa 41e conférence pour la paix en Palestine occupée en présence du réalisateur venu de Gaza, Lial Alastal. Alors aujourd'hui, dans la JT du local, nous poserons cette question. Comment un petit théâtre peut-il tenir tête à l'indifférence avec Jean-Luc Bansard, directeur du Théâtre du Tiroir, dans quelques instants. Et puis en seconde partie d'émission, nous irons courir du côté de Sainte-Suzanne où les remparts et les ruelles s'apprêtent à voir passer bien d'autres souffles. Quand le trail traverse les vieilles pierres, que viennent chercher les coureurs aux 6 heures de Sainte-Suzanne? Samedi 23 mai, l'association Médiéville organise une nouvelle édition de cet événement sportif et festif avec plusieurs trails pour différents niveaux dans l'un des plus beaux villages de France. Des animations, un repas, un concert et cette année encore une dimension solidaire puisqu'un euro par dossard sera reversé à l'association Ruban Bleu. Nous en parlerons avec Jérémy Maslowski, co-organisateur de l'événement tout à l'heure. Restez bien avec nous. Et puis, comme une dernière respiration avant de se quitter, Donatien viendra refermer cette émission avec sa chronique comme chaque mardi. Bienvenue dans la JT du local, bienvenue à l'auditeur de l'autre radio. Je suis Margot, profitez de cette émission puisqu'ensuite on fait une petite pause. Votre animatrice se remet d'une chute dans les escaliers mais revient très vite dans vos oreilles. Mettez-vous à l'aise, montez le son, voilà. Passons maintenant à l'entretien du jour.
Vous écoutez la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Comment un petit théâtre peut-il tenir tête à l'indifférence? C'est la question que l'on pose aujourd'hui dans la JT du local à partir d'un lieu que beaucoup de Lavallois connaissent, le Théâtre du Tiroir, installé au Petit Théâtre Jean Massé à Laval depuis des mois maintenant. Le Théâtre du Tiroir organise des conférences pour la paix en Palestine occupée, des rendez-vous réguliers nés dans l'urgence du conflit et devenus peu à peu un espace de parole, d'information, de témoignages, parfois aussi de rassemblement pour celles et ceux qui refusent de détourner les yeux. Le prochain rendez-vous aura lieu mercredi 13 mai à 20h avec donc la 41e conférence pour la paix en Palestine occupée en présence du réalisateur venu de Gaza, Lial Alastal. Pourquoi un théâtre choisit-il de porter cet engagement? Qu'est-ce que ça veut dire pour un lieu de création d'ouvrir aussi ses portes à la guerre, à l'exil, à l'occupation, à la parole de celles et ceux qu'on entend trop peu? Et comment, depuis Laval, un petit théâtre peut-il devenir un lieu de veille, de lien, de résistance à l'indifférence? Alors, pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'avoir à mes côtés. Jean-Luc Bansard, tu es le directeur du théâtre. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi.
Alors, je le disais, le mercredi 13 mai, ici, au Théâtre du Tiroir, tu accueilles la 41e conférence pour la paix en Palestine occupée, donc en présence du réalisateur venu de Gaza, je le redis, Lial Alastal. Avant de parler de ce rendez-vous, qu'est-ce que ça représente pour toi d'en être déjà aujourd'hui à une 41e conférence?
C'est terrible, c'est terrible. Quand j'ai lancé l'idée des conférences, c'est à l'appel de mes amis de Gaza. J'ai 4 amis, 5 amis à Gaza, dont 3 sont toujours là-bas. et qui m'appelle régulièrement sur le fil WhatsApp pour me dire « Fais quelque chose pour nous. » Le plus terrible message que j'ai reçu est celui-ci. Il vient de Najat Nijim, qui est un garçon qui a maintenant 30 ans, que j'ai rencontré alors qu'il avait 18 ans, que j'ai rencontré à Gaza. Il m'a écrit « Ici, on nous prend pour des animaux. S'il te plaît, prends-moi comme ton animal de compagnie. » Quand vous recevez ce message, vous ne pouvez pas être indifférent. Vous pleurez d'abord, après. Et pourquoi j'ai commencé ces conférences ? C'est pour répondre à mes 5 amis de Gaza et à toute la population de Gaza. Parce qu'en 1998, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer les premiers comédiens de Gaza, Osama Al-Madoun et Jamal Al-Rossi, qui sont deux grands amis, qui ont joué ici en 1998. Et après leur venue, ils m'ont invité à Gaza. Donc 1999 et l'an 2000, je suis allé à Gaza. J'ai découvert ce que c'était que l'apartheid, ce que c'était qu'une vie sous occupation. Et la seule chose qu'ils m'ont demandé quand je les ai quittés le 10 janvier 2000, de l'an 2000, je leur ai dit « Que dois-je faire ?» Ils me disent « Raconte ce que tu as vu, c'est tout. » Je lui ai dit « Mais je suis comédien. » Alors, dis nos poètes. Et ils m'ont donné deux poètes, Rassan Kanafani, dont j'ai mis en scène le texte qui s'appelle « Retour à Haïfa », et Mahmoud Darwish, que je dis régulièrement dans mes spectacles. Donc, je continue, en fait, je fais que répondre à un appel au secours de ses amis. On a commencé après le 7 octobre, quand on a compris la déferlante qu'Israël profitait de cette attaque de Hamas pour aller au bout de sa logique commencée en 1925, c'est-à-dire raser les villages palestiniens pour prendre leur place. C'est 1925, je vous dis, les premiers villages rasés. Donc ils ont continué. Et moi, je ne voyais qu'une chose, c'était donner la parole à ceux qui vivent ça. Et donc j'ai commencé à organiser en visioconférence des conférence avec mes amis de Gaza, et puis à inviter des spécialistes de ces questions-là. Moi, je ne suis qu'un comédien, mais il y a beaucoup de spécialistes des questions territoriales, des questions humanitaires, et nous sommes rendus à la 41e invitée.
Concrètement, comment tu construis toutes ces conférences, puisqu'il y a une diversité effectivement d'invités. Il y a aussi eu des films de projetés pour en fait raconter, comme tu le dis, l'histoire aussi, revenir, bien comprendre les enjeux historiques de tout ce qui se passe aujourd'hui.
Ces conférences, elles ont un premier but essentiel, c'est la pédagogie. Expliquer aux gens que ça ne tombe pas du ciel, ces massacres d'aujourd'hui. Ils ont commencé, je l'ai dit tout à l'heure, en 1925, le premier village rasé. C'est la continuité d'une politique qu'on appelle le sionisme, qu'il faut absolument combattre, parce que c'est la même politique que la France a appliquée en 1830 en Algérie, prendre les terres, chasser les indigènes, les Algériens de l'époque, et diriger, prendre la terre d'Algérie comme une terre française. On est dans la même situation. De Gaulle l'a très bien dit, en 1968, il a dit, quand il y a occupation, on va accuser les gens qui occupent, on va les occuper, on va les nommer comme des occupants, et ceux qui vont résister, on va les appeler des résistants, et ces résistants, on va les appeler des terroristes. C'est pas moi qui le dis, c'est un gaulliste. C'est De Gaulle lui-même. Bon, la situation à Gaza fait qu'aujourd'hui, la résistance a besoin de l'aide internationale. Elle ne s'en sortira jamais sans l'aide internationale. Donc moi, mon propos, c'est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et dans les 41 conférenciers que j'ai invités depuis novembre 2023, il y a autant d'Israéliens que de Palestiniens. Mais les Israéliens que j'ai invités, ce sont ceux qui luttent contre l'occupation. Ce sont ce qu'on appelle les Israéliens anti-sionistes, anti-politique Netanyahou, anti-extrême droite. Et ceux-là, ils sont minoritaires en Israël. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Israël peut tirer à vue sur n'importe qui. Et c'est à ceux-là dont je parle. Et le prochain, celui du 13 mai, est un Palestinien de Gaza.
Justement, donc le 13 mai, tu accueilles ici au théâtre Lial Alastal, un réalisateur venu de Gaza. Pourquoi est-ce que sa présence est importante dans ce cycle de conférences ? Qu'est-ce que son regard de cinéaste permet d'entendre ou de voir autrement, d'après toi ?
Alors, il y a à Gaza quelque chose qui s'est produit, que, à mon avis, ça s'est produit nulle part ailleurs, c'est que la population elle-même est devenue journaliste. J'ai reçu au mois de février la jeune femme qui s'appelle Nour El-Assi, qui a 23 ans, qui fait des études de français, de littérature, et qui est devenue, par la force des choses, journaliste pour les grandes chaînes. Et c'est ça mon idée, c'est d'inviter le maximum de gens. Yal Arastal, lui, il a fait le choix en tant que cinéaste de proposer à tous les habitants qui ont un téléphone mobile de filmer. Et ça a donné ce qu'on appelle les Story Gaza, Gaza Story, les histoires de Gaza écrites par avec la vidéo par les propres habitants qui subissent l'occupation et les massacres. Et lui, il en a fait un film, il a regroupé tout ça sous le nom de « Pour l'honneur de Gaza ». Donc c'est lui, c'est le porte-parole de ceux qui sont encore là-bas. Lui, il a réussi à s'échapper. Il y a la stalle, il a réussi à fuir, mais beaucoup d'autres sont là-bas. Et sa voix sera celle de ceux qui sont sur place.
Quand on est à Laval, loin géographiquement de Gaza, comment est-ce qu'on fait pour que ces réalités ne restent pas abstraites ? Aujourd'hui, on est dans une époque de surinformation, de désinformation aussi. Qu'est-ce qui permet, selon toi, de créer un lien réel avec le public, ici, via ces rendez-vous ?
Un acte très précis que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, c'est de nommer ce lieu du nom d'une petite fille de 6 ans qui a été assassinée, qui a été criblée de balles. Criblée, on a trouvé 536 impacts de balles dans la voiture où elle a été réfugiée. Après 3 heures d'appel au téléphone au secours palestinien, les Israéliens l'ont fusillée. Eh bien moi, mon idée, c'était très simple, c'est pour qu'elle soit, sa vie et sa mort ne servent à rien, c'est que ce lieu porte le nom de Ibn Rajab. Donc désormais, pour moi et pour ceux qui viennent ici, le lieu que j'habite, que la ville de Laval veut bien me prêter, et je les en remercie, s'appelle Théâtre Jean Massé Ibn Rajab. Il porte les deux noms jusqu'à temps que la guerre soit finie. Bon, ça me vaut des inimitiés, parce que de quel droit je me permets de changer le nom d'un bâtiment public ? C'est vrai. Eh bien, du droit à la résistance et le droit de ne pas se taire quand les choses vont mal. Vous savez ce qu'on dit ? C'est Einstein qui disait « Le monde va mal, mais il ne va pas mal à cause de gens qui font du mal, comme Netanyahou et Trump et Poutine. Il va mal à cause des gens qui regardent sans rien faire. » Moi, je ne veux pas être de ceux qui regardent sans rien faire.
Qu'est-ce que tu observes du côté du public depuis le début de ces rendez-vous ? Est-ce que tu sens une fidélité, une émotion, de la colère, un besoin de se retrouver aussi pour ne pas rester seul face à l'actualité, peut-être ?
Cette idée qu'il ne faut pas rester seul, c'est la principale raison que les gens viennent aux conférences. On a commencé les conférences, il y avait 150 personnes. Voilà, on dépassait la jauge parce qu'il y avait une telle émotion. Après le 7 octobre, après le début du génocide, le début des massacres. Aujourd'hui, on est plutôt à 50 spectateurs fidèles qui viennent, d'autres qui parlent les lectures des lettres de Gaza que nous opérons chaque mercredi après-midi avec un collectif qui s'appelle le collectif pour une paix juste et durable en Palestine occupée. Nous lisons les lettres que je reçois de mes amis de Gaza. La dernière est terrible, elle vient de Ziad Medouk, elle est absolument terrifiante, cette lettre que j'ai reçue il y a 4 jours, le 3 mai exactement. Et nous la lisons sur la place publique. Eh bien, des gens qui passent par là, le hasard fait qu'ils entendent ces lettres, ils viennent écouter les conférences parce qu'ils ont compris que ce qui se passe ici, c'est pas de la propagande pour je ne sais quoi, c'est simplement entendre une voix qu'on entend peu ailleurs ou pas.
Le titre de cette émission aujourd'hui, c'est « Comment un petit théâtre peut-il tenir tête à l'indifférence ?» Pour toi, l'indifférence aujourd'hui ressemble à quoi ? Est-ce que c'est le silence ? Est-ce que c'est à de la fatigue, à de l'impuissance, à la saturation des images qu'on peut voir un peu partout ?
Tous ces mots-là résonnent chez moi. Le silence de l'indifférence, c'est ce qui est plus terrible. Mais je vais dire, répondre à la manière des Palestiniens, à cette indifférence, à cette impuissance que beaucoup, beaucoup ressentent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Les Palestiniens disent une chose très simple. Mahmoud Darwish l'a dit, et puis mes amis disent, les Palestiniens n'ont pas le droit au luxe du désespoir. Pour quelqu'un qui vit bien, qui mange à sa faim, qui a un toit, le désespoir, c'est une banalité. Mais pour quelqu'un qui vit sous une tente plastique, qui craint la bombe tous les jours, le désespoir, c'est un luxe, on ne peut pas. Ils n'ont qu'une seule raison de vivre, c'est l'espoir. Donc, moi, je combats le silence, tout ça, qui existe vraiment. Hein, j'en suis le premier malheureux. Mais comme, voilà, je trace la route que j'ai dit à mes amis à Gaza le 10 janvier 2000, à Osama al-Madoun et Jamal al-Rossi. Chaque année, dans mon théâtre, la parole des Palestiniens sera. Et c'est le vrai depuis cette époque, depuis maintenant 30 ans. Il y a des Palestiniens qui viennent ici dans ce théâtre dire ce qu'ils ont à dire au monde.
Je rappelle donc à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute que la 41e conférence aura lieu donc le 13 mai ici au théâtre du Tiroir. Si on peut se pencher un peu aussi sur les prochains rendez-vous, début juin, la compagnie du Tiroir présentera sa nouvelle création, Don Quichotte et Sancho Panza d'après Cervantes. Est-ce que la figure de Don Quichotte résonne avec cet engagement justement, continuer à se battre pour une certaine idée du monde, même quand le combat combat paraît disproportionné.
Ah oui, Don Quichotte, pour moi, c'est une figure formidable parce que le hasard a fait que j'ai décidé de le mettre en scène cette année. C'est pas en lien avec l'actualité, mais c'est vrai, Don Quichotte est quelqu'un qui décide de combattre l'injustice, quoi qu'il arrive, bien qu'il se trompe à chaque fois sur les moulins à vent, qu'il croit être des géants qui l'attaquent. Mais ce qui est sûr avec Don Quichotte, c'est que il va au bout de son idée. Et moi, c'est aussi pour ça que je fais ce métier depuis 40 ans, que je dirige un théâtre depuis 40 ans. C'est pour qu'on ne change pas. Vous savez ce qu'on disait, un conte traditionnel disait que un conteur parlait devant 100 personnes. Et puis un jour, tous les jours, il parlait devant 100 personnes. Puis un jour, les gens se sont lassés de l'écouter. Et puis un petit garçon vient voir ce monsieur qui compte tous les jours. Et il lui dit, mais monsieur, pourquoi tu continues à raconter alors qu'il n'y a personne qui t'écoute? Et l'homme a répondu, quand j'ai commencé à raconter, je voulais changer le monde. Eh bien moi, je continue à compter pour que le monde ne me change pas.
Merci beaucoup, Jean-Luc. Je crois qu'on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Le prochain rendez-vous, la prochaine conférence, la 41e aura lieu le 13 mai. Et ensuite, toutes les informations, les prochains rendez-vous que tu nous donnes sont sur le site du Théâtre du Tiroir.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Longue vie à l'autre radio.
L'autre radio, eh ben c'est la vie qui passe en direct.
Dans quelques instants, on se rend du côté de Sainte-Suzanne pour parler trail, pour parler des 6 heures de Sainte-Suzanne. Avant ça, on marque une courte pause musicale. On écoute Daffodil, Maquillez-vous les hommes.
Encore un soir, un sourire dégueulasse. Tu peux pas t'empêcher de me déshabiller. Ton regard sale me mate et se prélasse. Lève les yeux, petit garçon mal élevé. Au fond, je pense comprendre que t'es jaloux de mes fringues, que tu voudrais m'emprunter mon beau liner à paillettes. Tu te demandes comment j'ai trouvé mon rouge à lèvres assorti à mes bottes et à ton vieux casson troué. Maquillez-vous les hommes, mettez en plein les yeux, devenez des icônes, pas des mâles malheureux. Et si ça vous dérange de porter une jupe, un petit short à franges, vous ne deviendrez pas pute. Maquillez-vous les hommes. Maquillez-vous les hommes. Encore un soir, un sourire dégueulasse. T'as pas pu t'empêcher de me déshabiller. Ton regard sale m'a maté sans relâche. Lève les yeux, petit garçon mal élevé. Au fond, je pense comprendre que tu pourras pas changer, que tes yeux de pervers resteront bien fixés. Tu te demandes comment m'enlever mes vêtements, à commencer par mes bottes et puis mes vieux collants troués. Maquillez-vous les hommes, mettez en plein les yeux. Et si ça vous dérange de porter une jupe, un petit short à franges, vous ne deviendrez pas pute. Maquillez-vous les hommes. Maquillez-vous les hommes. Maquillez-vous les hommes. Mettez en plein les yeux, devenez des icônes.
Samedi 23 mai, Sainte-Suzanne accueillera une nouvelle édition des 6 heures de Sainte-Suzanne, un rendez-vous sportif et festif organisé par la branche sportive de l'association Médiéville. Au programme, plusieurs trails ouverts à différents niveaux dans le cadre remarquable de l'un des plus beaux villages de France, mais aussi des animations, un repas et puis un concert en soirée. L'événement porte également une dimension solidaire puisque 1 euro par dossard sera reversé à l'association Ruban Bleu. Côté inscription, on en reparlera, mais il faut anticiper. Aucune inscription ne sera possible sur place, sauf pour les courses enfants, je crois vous allez nous le dire. Pour présenter cette édition, ses parcours, son organisation et l'esprit de ce rendez-vous, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Jérémy Maslowski, co-organisateur des 6 heures de Sainte-Suzanne. Bonjour Jérémy, merci d'être avec moi.
Bonjour Margot et merci pour l'invitation.
Avec plaisir, vous êtes, je le disais, donc co-organisateur de cet événement. Avant d'entrer dans le détail, quel est votre rôle, vous, dans l'organisation justement de l'événement ? C'est une position que vous avez reprise en cours de route.
Oui, en fait, cette année, c'est la 9e édition. Donc c'est la 4e édition consécutive. J'ai la chance d'être le leader, le responsable de l'organisation. De ce bel événement. Alors moi, mon rôle, en l'occurrence, c'est déjà d'avoir ouvert de nouveaux parcours, puisque à l'origine, seules les deux boucles horaires de 6 heures, c'est pour ça qu'on appelle ça les 6 heures de Sainte-Suzanne, étaient plutôt des boucles horaires un peu difficiles, où tout le monde ne pouvait pas commencer cette course. Et donc, j'ai ouvert des formats plus faciles à partir du 5 km. C'est également mon rôle, c'est de faire l'animation toute la journée, de proposer de nouvelles choses aussi à chaque année aux nouveaux venus.
Et alors justement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les 6 heures de Sainte-Suzanne, c'est quoi exactement ?
Alors, avant tout, c'est un événement familial, convivial, tourné autour du sport, le trail plus exactement. Parce que le trail, c'est ma passion, en fait, depuis une petite quinzaine d'années. Et il y a plusieurs formats de trail qui sont proposés. 4 formats solo, 5, 10, 21 et 42 km, avec 900 de D+, 900 de dénivelé positif pour le 42 km. Et les 2 formats horaires de 6 heures qu'on a évidemment conservés, avec une boucle de 4 km et une boucle de 5 km. La boucle de 5 km fait 160 de D+. Donc à faire en 6 heures, et le record actuellement c'est 14 boucles de 5 km, ça fait des kilomètres.
On est dans l'un des plus beaux villages de France, sur un site classé. Qu'est-ce que ce cadre apporte à l'événement d'après vous ?
Alors, avoir la chance de pouvoir courir dans un cadre aussi beau historique, c'est un vrai plus hein, par rapport à d'autres courses. En plus, Sainte-Suzanne est tissée sur un éperon rocheux. Donc on a une vue à 360, courir et avoir la chance aussi surtout que le château nous accueille, nous, le village des 6 heures, au cœur même de la cour du château, pour accueillir tout ce beau monde, c'est une grande chance qu'on fait profiter à tout le monde.
Quand le trail justement traverse les vieilles pierres, qu'est-ce que les coureurs viennent chercher ici selon vous ? Une performance, un décor, une ambiance, une expérience ?
Eh bien en fait, de tout ça en fait, parce que comme il y a plusieurs formats de course, il y en a pour tous les goûts et tous les efforts. Il y en a qui vont se tester leurs premiers 5 km, donc ils vont vraiment voir ce que c'est qu'un trail montagnard, on va dire, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé. Et il y en a qui vont choisir le cadre plutôt course nature, une course bucolique avec un peu de dénivelé quand même, mais pas une grande difficulté. Il y a aussi ceux qui préparent des ultra-trails. Eux vont choisir les courses horaires de 6 heures parce que c'est un vrai cadre d'entraînement pour une sortie en ultra-trail.
Oui, justement, ce qui est important de préciser, c'est que les différents parcours s'adressent à plusieurs niveaux. Votre objectif, c'est de trouver l'équilibre entre le défi sportif et l'accessibilité.
Oui, en fait, il y a tout ça. Hein. Comme vous le disiez, chaque personne trouvera son petit plaisir dans sa course qu'il aura choisie. On peut faire ça seul ou en équipe de 2, 3 ou 4 pour les courses horaires. Donc on peut prendre le temps de se reposer pendant que le coéquipier fait son circuit, fait sa boucle. Donc il y a vraiment, même sur un esprit 6 heures de course, la possibilité de faire ça d'une façon assez relaxe, de prendre du plaisir, même si l'effort est un peu intense.
Et alors, il y a aussi des courses pour les enfants avec une inscription possible sur place pour eux uniquement, je crois. Est-ce que c'est important pour vous aussi d'impliquer les plus jeunes dans cette journée-là ?
Oui, parce que en fait, le sport, c'est pour moi, c'est essentiel. En fait, toute ma vie, je la consacre autour du sport. Je me déplace à vélo donc au quotidien dans mon travail. Et le sport, c'est un bienfait que je ne vais pas expliquer, mais tout le monde le sait. Et avoir la chance aussi pour les enfants, dès l'âge de 7 ans, de pouvoir courir, on voulait le faire gratuitement. Donc ça, c'est mon initiative, il y a 4 ans, de proposer cette course. Il y a 4 ans, il y avait peut-être une quinzaine d'enfants en tout. Et là, je pense qu'on va arriver à une petite cinquantaine de personnes. Déjà l'an dernier, ils étaient nombreux à courir. Mais voilà, leur offrir un circuit de 1 km pour les 7-10 ans et 2 km pour les 10-16 ans, c'est le cadeau qu'on leur fait. Voilà.
Alors je le disais, c'est pas seulement une manifestation sportive, il y aura aussi des animations, un repas, un concert le soir. Est-ce qu'on peut peut-être faire le tour un peu du programme de la journée ?
Oui, bien, à partir de 13h30 jusqu'à 15h, on va avoir un conteur, un professionnel, un passionné du Moyen-Âge qui va nous raconter comment on bâtissait à l'époque les maisons, les châteaux. Donc il va venir avec une grue, une ancienne grue, qu'il a fait, avec toutes les techniques. À partir de 15h et 15h15, c'est la course pour les enfants. Et à partir de 15h30 jusqu'à 17h, il y aura un atelier, un herbier, réalisé par un permaculteur de Sainte-Suzanne, un professionnel également. Et le soir, on a un repas à partir de 19h qui va pouvoir s'éterniser jusque tard dans la nuit avec un DJ qui va assurer l'animation musicale. Je veux préciser que ce banquet est organisé par un traiteur professionnel avec deux menus, une paella royale ou un silicone carnet. Et ce sont des menus copieux. Voilà, et j'ai oublié de dire aussi quelque chose de très important, c'est une nouveauté cette année, et c'est totalement gratuit. À partir de 10 ans, on a un Biatrail. C'est une nouvelle course qui est en fait, qui consiste à faire 3 fois le tour de l'enceinte de la cité, donc 3 fois 660 mètres, avec 2 fois 5 tirs à la carabine laser, tout ça par salve de 15 personnes. Les premières initiations commenceront à 9h et les courses se termineront à 17h. Donc il va y avoir beaucoup de monde. Là aussi, c'est gratuit. Les inscriptions sont sur place.
L'événement a aussi une dimension solidaire. Je le disais tout à l'heure, chaque dossard acheté va permettre de reverser 1 € à l'association Ruban Bleu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix ? Quelle est cette association ?
Alors pourquoi ce choix ? Tout d'abord, il y a 2 ans, pour aider à la promotion des 6 heures de Sainte-Suzanne, j'ai fait appel à des influenceurs, comme on les appelle, et notamment Sophie Santin, qui est la capitaine des Rubans Bleus et qui a eu gentiment qui m'a aidé à faire la promotion des 6 heures en 2024. Et je lui ai naturellement proposé d'être marraine des 6 heures cette année et de mettre en avant l'association qu'elle préside avec les Rubans Bleus. Le Ruban Bleu, c'est une association qui milite pour la sclérose en plaques. Okay. Donc, ils vont avoir des personnes qui seront sur place pour répondre à toutes les questions, pour inciter les gens justement à être un peu plus solidaires également et à donner à l'association directement, pas que grâce à la course.
Côté inscription, il y a plusieurs points importants à rappeler. Je l'ai dit plusieurs fois, donc l'événement a lieu le samedi 23 mai, donc à Sainte-Suzanne. Pas d'inscription sur place, sauf pour les enfants. Et je crois qu'il y a une majoration des tarifs à J-15 et J-7. Il faut que le dossier aussi soit complet.
Il est encore temps de s'inscrire à des tarifs qu'il faut reconnaître. Je suis quand même très bas par rapport à tout ce qu'on propose et par rapport à toutes les courses qu'on peut voir à côté. Au 6 heures de Sainte-Suzanne, hormis le fait de courir dans un cadre magnifique, les ravitaillements sont hyper copieux. Franchement, on n'a rien à envier aux grandes organisations. On a des bénévoles qui sont au nombre de 80 qui attendent les coureurs dans les meilleures conditions. Tout le monde est hyper galvanisé pour accueillir les coureurs, les participants.
Je crois que ça peut être le mot de la fin, ça donne envie. J'allais vous demander si quelqu'un hésitait et qui nous écoute à se rendre à cet événement. Je crois que vous venez d'ajouter la touche finale qui permet de nous donner envie de vous rejoindre donc le samedi 23 mai à Sainte-Suzanne pour les 6 heures de Sainte-Suzanne. Un rendez-vous, on le dit, sportif et sportif organisé par la branche sportive de l'association Médiéville. Merci beaucoup Jérémy d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut rappeler quand même l'endroit où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pratiques et où est-ce qu'on peut s'inscrire ?
En fait, tout simplement, en tapant les 6 heures de Sainte-Suzanne sur Internet, on va arriver sur la page Internet des 6 heures, où là, on peut directement s'inscrire sur l'une des courses. Et on a toutes les informations dans le déroulé, avec le règlement également, le règlement des 6 heures de Sainte-Suzanne. Tout apparaît sur la page. J'invite également les auditeurs à aller consulter la page Facebook et la page Instagram des 6 heures, avec de nombreux shorts qui vont vraiment vous donner l'eau à la bouche. Et si vraiment vous hésitez encore, là, je pense que vous n'aurez plus aucune hésitation. Merci. Les images sont magnifiques. Merci beaucoup, Margot.
Merci beaucoup, Jérémy. Je vous souhaite une belle journée. Donc, on se donne rendez-vous le samedi 23 mai à Sainte-Suzanne. Belle journée, Jérémy. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
L'agité du local, c'est un peu comme toi. Indispensable.
Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la radio, c'est ce moment où il ne reste plus qu'une voix, plus d'explications, plus de relance, juste quelqu'un qui raconte. Et c'est chaque mardi dans votre émission quotidienne. Donatien, c'est à toi.
Comment ça va ? Comme un lundi, réponse laconique de Jérémy au standard, dit Jérém pour les potes. Comme un lundi, même répartie venant de Françoise, la collègue du service expédition, et de Samuel, dit Sam, son adjoint. Idem à la caisse de la supérette. Comme un lundi, répond Caroline, Caro pour les copines. Aucune réponse à la boulangerie, fermée le lundi. Mais qu'à cela ne tienne, partie remise, on aura demain la réponse, comme un mardi. Rarement la question se pose le dimanche. Parce que le dimanche, en dehors de la famille, on ne croise pas grand monde. Et puis ça ne viendrait pas à l'idée de répondre « comme un dimanche après-midi ». « Comment ça va ?»« Comme un dimanche ». Ce dimanche haï par Charles Aznavour, ce dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux, le dimanche qui s'impose comme un jour généreux. Lorsqu'il travaillait, Donatien souffrait de cette tristesse que les magazines qualifient de spleen du dimanche soir. Était-ce à cause du lundi matin et de la reprise du travail ? Aujourd'hui dimanche, on a fait la grasse matinée, les plus sportifs sont allés au parc faire leur footing, on a décalé l'heure du repas et le compte à rebours commence après la vaisselle. Le spleen baudelairien, comme un ciel bas et lourd, s'avance, pesant comme un couvercle. Peut-être une éclaircie encouragera-t-elle les promeneurs à sortir, croiser d'autres promeneurs qui répondraient à la question « comment ça va ?» comme un dimanche après-midi. Peu probable, on se saluera d'un hochement de tête, d'un sourire, d'une poignée de main. Allez, à bientôt ou à lundi. Le dimanche soir, pour oublier un peu le hurlement des cloches, la pluie comme des barreaux et les esprits errants, les cinéphiles se réjouiront de voir sur le petit écran le film du dimanche soir. Récemment, une série diffusée sur Arte avait pour titre « Quelqu'un devrait interdire les dimanches après-midi. Mais si cela se faisait, on serait trop tôt lundi matin et on n'aurait pas pris le temps de cafarder, mollement affalé sur le canapé, blotti dans les bras de l'être aimé et sous une couverture câline devant un film en noir et blanc quand finissent par s'embrasser les amoureux sur une musique de Michel Legrand.
Moi, les dimanches, ça me rend triste. Rayer les dimanches, comme un bon vieux disque. Je mets du Michel Legrand, des films beaux mais déprimants. Jeux d'actrice. Oh oui, les dimanches, je voudrais pas que ça se finisse. Car pire que les dimanches sans fin, il y a surtout les lundis matins.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean-Luc Bansard, merci à Jérémy Maslowski d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Merci à Donatien et merci à Joël pour la diffusion de cette émission. Et puis parmi ceux qui font vivre joliment ce rendez-vous quotidien, il y a bien sûr Lénaïk Folzour qui signe l'habillage sonore original de la JT. Restez à l'écoute de l'autre radio, votre radio associative locale, puisqu'à 21h, on fera un peu de place au rap français avec l'émission Frères de chaussures, frères avec un accent circonflexe. Attention, l'émission nous est proposée par Fatshu. Ensuite, tout de suite à 13h, eh bien, ce sera l'actu des oubliés qui ira chercher, loin du vacarme, des actualités les plus commentées, les résistances qui s'organisent à travers le monde, des luttes sociales, féministes et écologiques qui rappellent que face aux attaques contre les droits, les libertés et les solidarités, les peuples continuent de se lever, d'inventer et de ne pas rester seuls. Moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de l'autre radio. D'ici là, continuez d'aller vers ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et s'il vous plaît, encore et encore, faites-le bien.
Fin de l'émission, mais pas de notre histoire.
Ah ben, surtout pas, Mimi.